Abordons maintenant, si vous voulez bien, le sujet principal. Et la question qui va être couverte, c'est laissons-nous Dieu nous construire à sa ressemblance? Et nous allons prendre pour cela un passage, plusieurs passages, mais l'événement principal se retrouve dans la vie de Salomon et du peuple d'Israël. Vous savez, dès le début de son règne, Salomon, le roi Salomon, fut un bâtisseur. Il construisit trois grands travaux, trois grandes demeures, une pour son épouse, la princesse d'Égypte. Il construisit aussi la maison royale, la maison de Salomon. En fait, c'est comme une forme de parlement. C'est là qu'avait lieu la justice et tout ça. Alors, donc, c'est une maison pour lui, oui, mais c'est un peu comme la Maison Blanche ou un parlement. Et bien sûr, l'ouvrage de taille majeure, c'est la construction du temple. Vint le jour, frères et sœurs, où tous ces ouvrages furent achevés. Et bien sûr, il y a un moment de dédicace, un moment où on a coupé, si vous voulez, le ruban pour entrer dans ces différentes résidences. Bien sûr, pour la princesse d'Égypte, l'épouse de Salomon, ce fut une question un peu plus privée. Pour la résidence de Salomon et son palais, ce fut un peu plus public, mais ce qui a été le plus spectaculaire, ça a été bien sûr l'entrée dans le temple de Salomon. J'aimerais citer ici un extrait du commentaire de l'Église de Dieu sur ce passage de Un roi, et je ne donne pas nécessairement la référence, c'est-à-dire je peux vous donner la référence, on n'a pas besoin de s'y reporter parce qu'on va revenir un peu sur cette construction. Oui, ce sera dans le livre d'un roi, mais ce sera un peu plus tôt. Mais je vous donne référence 1 roi 8, où c'est à ce moment-là qu'a lieu cette grande dédicace. Alors, de tous les jours qui se sont écoulés sur la terre, celui où Salomon a consacré le temple doit certainement figurer parmi les plus impressionnants. Le temple était une création magnifique dont chaque élément était orné d'or, d'argent, de bronze, de pierres précieuses, de marbre, de gravures et de boiseries. Se trouver dans ces cours devait être une expérience à couper le souffle. Et je remercie l'Église pour ce commentaire parce que ça m'a fait réfléchir. Est-ce que j'aurais aimé être là? Et la réponse est oui. Mais vous savez, frères et sœurs, nous sommes invités à une inauguration spectaculaire, comme l'a dit dans un sens, nous l'avons entendu souvent dans les sermons, quelque chose d'incroyable nous attend, même dans la prière d'ouverture. Et nous remercions Dieu pour cette espérance que nous avons. Mais cette construction du temple, qui a amené tant de réjouissances, comme nous allons le voir, était le produit, le fruit du travail de beaucoup de personnes. Et c'est là qu'on va voir certains éléments et comment ça peut nous inspirer à voir que nous aussi, nous faisons partie d'une œuvre de construction extraordinaire. Alors, nous allons, si vous voulez, commencer dans le premier livre des rois, mais le chapitre 5, versets 15 à 18 d'abord, parce que c'est quand même intéressant que Dieu a choisi Salomon pour être, au fond, une annonce avant-coureur, pour typifier, si vous voulez, pour démontrer certains attributs que le Christ aura lorsqu'il inaugurera son royaume, lorsqu'il entrera dans son règne avec puissance et gloire. Et comme je l'ai dit, Salomon a construit beaucoup de choses, entre autres ces trois éléments dont j'ai parlé, et Jésus-Christ est maintenant en train de construire aussi des éléments qui sont annoncés par ce que Salomon a fait. Alors Salomon, il est dit au verset 15, avait 70 000 hommes qui portaient les fardeaux et 80 000 qui taillaient les pierres dans la montagne. Alors c'est une foule d'ouvriers, chacun à sa tâche, et il ajoute au verset 16 le texte sans compter les chefs au nombre de 3 300 préposés par Salomon sur les travaux, chargés de surveiller les ouvriers. Le roi ordonna d'extraire de grandes et magnifiques pierres de taille pour les fondements de la maison. Il s'agit bien sûr d'abord et avant tout de la maison de Dieu, du temple. Et voyez que ce travail-là est un travail non seulement d'équipe entre les Israélites, mais qu'il y a aussi une autre nation étroitement impliqué avec Israël. Et ça, c'est de toute beauté, parce que c'est préfigurateur. Verset 18. Les ouvriers de Salomon, et remarquez ceux de Hiram, et même les Gibliens, les taillèrent. Ils préparèrent les bois et les pierres pour bâtir la maison. Alors, on a d'un côté les ouvriers de Salomon, qui bien sûr sont israélites, mais nous avons aussi ceux de Hiram, qui sont au fond de Tyr et de Sidon, un autre royaume juste à côté. Et on précise en plus les Gibliens, qui en fait sont des spécialistes de cette même nation, Tyr et Sidon. En fait, c'est des royaumes-villes, et qui aujourd'hui forment une petite ville qui s'appelait dans l'histoire Byblos, d'ailleurs, duquel on tire le mot Bible. Juste pour vous donner une idée, ça vient de ces Gibliens qui habitaient donc cette nation voisine d'Israël et qui étaient experts dans la taille des pierres, entre autres. Nous avons vu avec l'étude biblique, avec la francophonie, n'est-ce pas, on a du plaisir avec ces études-là parce qu'on peut parfois commenter les uns les autres sur certaines choses et après les chapitres que l'on couvre, on a des questions, on a des commentaires. Et un frère faisait commenter qu'il avait déjà entendu une remarque concernant la façon dont la maison avait été bâtie. Et on va quand même s'y reporter, si vous voulez, parce que c'est dans 1 Roi 6, verset 7. Bien sûr, je vous ai fait part que les deux peuples qui travaillent ensemble, c'est symbolique du fait que lorsque Jésus-Christ va inaugurer, si vous voulez, la maison de Dieu à son retour, elle sera composée autant des gens d'Israël que des gens des autres nations. Hein, c'est une révélation que nous prenons pour acquise, mais que ça a pris quand même plusieurs années aux disciples de Jésus de comprendre que Dieu ouvrait les portes de sa maison à toutes les nations et qu'il allait composer un peuple et de juifs, et de grecs, et de barbares, et de, enfin, toutes les nations du monde. 1 Roi 6, verset 7, nous amène un élément intéressant qu'un frère nous a rappelé à cette étude, et on dit ceci. Lorsqu'on bâtit la maison, on se servit de pierres toutes taillées. Donc, on a ces ouvriers qui sont dans les carrières, si vous voulez, et qui taillent de façon précise de grandes pierres. Mais lorsqu'on les a installés, lorsqu'on a pris ces pierres, on a commencé à les mettre brique par brique, si je reprends l'expression de la sermonnette, il est dit que ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. C'est-à-dire dans les derniers moments de cette construction qui est la partie où les pierres doivent être agencées, une par-dessus l'autre, une à côté de l'autre. Les pierres étaient tellement bien taillées qu'on n'a même pas eu besoin de les retoucher. C'était tellement solennel et tellement précis qu'on n'entendait pas de bruit pendant que ces grandes pierres étaient installées. Et ça nous faisait réfléchir au fait que les plus grandes choses que Dieu font se font souvent sans qu'il y ait beaucoup de bruit. N'est-ce pas? On sait très bien que même la pierre de taille, la pierre de fondation, le commencement et la fin de cette bâtisse, c'est Jésus-Christ. Et on sait que cette pierre-là, le moment le plus difficile de la construction de l'édifice a été lorsque cette pierre a donné sa vie, lorsque ce roc, n'est-ce pas, qui est devenu chair, a donné sa vie sur la croix. Et il est dit qu'il ne se plaignait pas. Il ne faisait pas entendre de bruit dans un certain sens. Ça s'est fait en toute dignité, en tout honneur et en tout silence. Il est dit qu'il n'a pas ouvert la bouche, c'est-à-dire, bien sûr, dans le contexte de se plaindre. Un petit peu, je reprends l'idée de la sermonnette. Hein. Au fond, ce que nous faisons lorsque nous sommes anxieux, que nous bâtissons ce genre de scénario, non pas la foi brique par brique, mais qu'on bâtit autre chose, ben, en fait, on bâtit des critiques, on bâtit des murmures, on bâtit des doutes, hein. Alors, Dieu dit non, non. Bâtissons dans le silence la foi. Bâtissons aussi la maison de Dieu. Alors, si Jésus-Christ, qui est la pierre de voûte, mais aussi la pierre de fondation, le commencement et la fin de l'édifice, il partage ses qualités, il inclut dans sa maison d'autres pierres. C'est ce qu'on voit justement intéressant parce que c'est la lettre de Pierre, première lettre de Pierre, chapitre 2, verset 5. Et on sait que le mot Pierre veut dire pierre. Petros, son nom en grec, est de la même famille, si vous voulez, que le mot Petra, roc, qui est bien sûr, qui décrit Jésus-Christ. Jésus-Christ est le rocher, Pierre est une roche parmi d'autres. Je dis bien une roche parmi d'autres parce que Pierre lui-même va nous dire dans la première lettre de Pierre 2, verset 5, en parlant aux enfants de Dieu, en parlant à ses frères et sœurs, il dit, vous-même, comme des pierres, vivante. Il faut quand même comprendre que Pierre, en tant que serviteur de Jésus-Christ, est vivant. Hein? Il est de chair et d'os et il consacre sa vie à servir Jésus-Christ, mais pour être avec lui, il y a d'autres pierres vivantes. Et il dit, au fond, participant à cet édifice, à cette construction, édifiez-vous pour former une maison comme celle de Salomon, mais spirituelle, une maison spirituelle, c'est-à-dire difficile, hein, à voir, invisible jusqu'à temps qu'elle soit, dans un sens, montée. Présentement, frères et sœurs, nous sommes dans le processus de la taille. Chacun d'entre nous, nous sommes des pierres et nous sommes taillés par le maître sculpteur. Et souvent, dans le monde des artistes, on nous dit, un sculpteur, ce qu'il fait, c'est qu'il enlève tout ce qui est inutile dans sa statue ou dans son œuvre. Et quand on y pense, c'est d'arriver à enlever tout ce qui n'est pas de son œuvre. Et on voit très bien que c'est un peu ça parfois que l'enfant de Dieu subit, c'est qu'on aimerait bien que certains morceaux reste, mais des fois je dis non, ça j'en ai pas besoin parce que je fais une œuvre de beauté et ça c'est pas assez beau pour moi. Clouc! Et voilà, nous sommes libérés de quelque chose qui on aurait peut-être voulu garder. Alors ça fait partie un peu de notre formation. Dans ce processus de bâtir la maison de Dieu spirituelle, Paul va nous dire qu'il est très important de faire attention à la façon dont nous bâtissons. Et nous allons nous reporter maintenant à la première lettre aux Corinthiens, chapitre 3. Et à partir du verset 9, on va quand même voir plusieurs versets parce que nous comprenons que maintenant, comme Jésus l'a dit lui-même, je bâtirai mon église, je bâtirai ma maison, en fait, qui est la maison de Dieu, qui est composée des enfants de Dieu, mais qui se tiendra comme un édifice lorsque je prendrai possession de mon règne. La maison de Dieu, l'édifice de Dieu, ce sera au fond, comme l'a dit lui-même Pierre, ce groupe de personnes, des ouvriers du royaume qui pourront, n'est-ce pas, aider les gens à adorer Dieu, à vivre une vie telle qui était prévue pour l'homme, pour son édification, éventuellement pour sa gloire, c'est-à-dire pour être glorifié. Mais regardons la première lettre aux Corinthiens, chapitre 3. Là, il parle de lui dans le contexte et il parle d'Apollos, il parle de ceux qui ont reçu des dons pour être des bâtisseurs du temple, pour être un peu comme des ouvriers, mais des chefs d'ouvriers. Un peu comme ces 3 000, n'est-ce pas, qui étaient chefs de corvée. En passant, si vous faites un calcul, ça veut dire environ un chef de 50 par ouvriers, 3 300, et on voit le nombre d'ouvriers, 150 000, et on voit aussi que probablement, comme c'est le cas dans l'édifice de Dieu, la façon de Dieu, c'est qu'il y a même des chefs sur les chefs. Alors, on peut voir des chefs de dizaines sur les chefs de cinquantaine. Alors, c'est intéressant qu'eux sont sur des, c'est ça, sur l'ensemble des travaux. Mais ça, c'est dans les chiffres physiques. Spirituellement, ben, il y a peut-être une équivalence, mais c'est à nous à chercher la pensée de Dieu là-dessus. Verset 9. Donc, il parle de lui. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Et là, remarquez qu'il se distingue un peu en disant, vous, mes frères, vous êtes le champ de Dieu, l'endroit où Dieu travaille, mais là, il va dire aussi l'édifice de Dieu, la construction de Dieu, la bâtisse de Dieu. Il dit verset 5, 10 maintenant, 1 Corinthiens 3, 10, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Donc, je participe à cette œuvre, dit Paul, et le fondement que j'ai posé, bien sûr, je vais expliquer, c'est Jésus-Christ. Autrement dit, j'ai été ici à Corinthe et je vous ai amené cette pierre majeure de taille qui est le fondement même de tout l'édifice qui est Jésus-Christ. Une pierre parfaite. Et bien sûr, ça nous rappelle cette construction, hein, de Hiram avec Salomon, travaillant ensemble. Et il dit aussi, Apollos aussi est venu. Apollos est venu et il a bâti avec moi. Hein? Et alors, il continue au verset 11, personne, par contre, dans l'Église de Dieu, ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Alors, de ce côté-là, hein? Il faut être à la bonne place, il faut vérifier si le fondement est le bon fondement, donc on peut continuer à bâtir. Verset 10, 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, là, il y a des choix qui s'exercent. Avec de l'or, comme Salomon, avec de l'argent, comme Salomon, avec des pierres précieuses, comme Salomon, avec du bois, et là, étonnamment, on pourrait dire, comme Salomon. Du foin, non. Non, il n'y a pas de foin dans la construction du temple à Jérusalem. Du chaume, non plus. Et c'est intéressant parce qu'ici, il va continuer l'analogie au verset 13. Car le jour la fera connaître, parce que, en parlant de l'œuvre de chacun sera manifestée, autrement dit, on bâtit, on fait des choix, on exerce notre foi, hein? Et nous voilà que l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour du Christ, le jour du jugement, la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu de l'épreuve, dans le feu du plan final de Dieu pour nous. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Verset 14. Donc, on bâtit tous le temple de Dieu, mais on a une certaine liberté. On peut choisir la qualité des matériaux. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Donc, il s'agit des œuvres ici. L'Église de Dieu a toujours expliqué qu'il y a deux éléments dans le salut, dans le plan de salut de Dieu. Le premier, le plus important, c'est que le salut est un don gratuit, c'est-à-dire la vie éternelle, on ne peut pas se la donner soi-même. Hein? On a beau faire tout ce qu'on peut faire, on n'arrivera jamais à se donner la vie éternelle. On n'arrivera jamais à cette recette que les scientifiques recherchent, que les grands de ce monde recherchent, cette immortalité. On n'y arrivera pas par nos forces. C'est par le don gratuit et de Dieu, mais il y a un prix qui a été payé pour ça, et c'est par Jésus-Christ lui-même, le prix de sa vie. Par contre, on sait aussi que nous serons récompensés chacun selon nos œuvres. Là, c'est un élément additionnel. Nous sommes glorifiés. Nous avons la vie éternelle, mais notre participation à cette vie éternelle va varier selon la récompense que Dieu nous donnera, qui, elle, sera proportionnée à nos œuvres, aux œuvres que nous aurons faites de pair avec Jésus-Christ. Alors, il dit au verset 14, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Verset 15, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, hélas, on a vu certaines personnes, parce qu'il parle surtout ici des leaders dans le contexte ici. Il dit, nous bâtissons, vous édifiez, vous participez, mais nous en sommes beaucoup plus responsables que vous ne l'êtes. Je parle au niveau de bâtir l'Église avec Jésus-Christ. Alors, parmi les ouvriers, les chefs de corvée ici, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, bois, point chaume, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Autrement dit, il y a des gens qui, vous en avez connu, ils ont mal bâti. Ils ont mal bâti. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils perdent leur salut, mais ça veut dire que certainement, ils peuvent perdre leur récompense. Intéressant que Paul ici qui connaît très bien que Salomon a bâti le temple avec les pierres précieuses, avec l'or, l'argent, il savait aussi qu'il y avait de la boiserie. Mais il dit, il inclut le bois dans ce qui peut être brûlé, bien sûr, parce que c'est possiblement brûlé facilement par le feu, mais il veut aussi peut-être montrer que Dieu est encore plus exigeant pour nous dans la façon dont nous bâtissons. Il faut que ce soit vraiment des matériaux précieux. Il dit ensuite, verset 16, pour nous inclure tous, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc, vous faites partie d'un édifice, d'une œuvre de construction du Seigneur. Soyez sûrs de faire la part que Dieu vous a confiée. Alors, le temple, la maison de Dieu, l'Église, ce sont tous des synonymes que Jésus bâtit, c'est nous collectivement, et vous savez comment Paul va appeler ce nous collectif, il va l'appeler le corps du Christ. Très important qu'il utilise le mot corps, parce que, vous voyez, nous allons aller maintenant un petit peu plus loin dans le chapitre 6, cette fois, de la première lettre aux Corinthiens, pour voir que si collectivement nous sommes le temple de Dieu, il y a encore plus étonnant. C'est le chapitre 6, verset 19. Et là, il va parler individuellement de chacun de nous en tant que personne que Dieu a appelée, auquel, à laquelle il a donné le Saint-Esprit. Et là, on parle de chacun d'entre nous. C'est quelque chose de phénoménal ce qu'il va dire ici. Ne savez-vous pas que votre corps, alors frères et sœurs, entre vous et moi, combien de corps avons-nous? Moi, j'en ai qu'un. J'en ai qu'un. Que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Vous faites partie non seulement du grand temple, vous, individuellement, moi, je suis un temple que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Non seulement nous sommes un temple, mais nous sommes un temple consacré à Dieu, appartenant à Dieu. C'est ce que nous sommes, le corps, l'être Bruno que vous voyez devant vous est un temple de Dieu. Et moi, je vois devant moi, ceux qui ont la caméra ouverte, des temples, sinon j'y vais par la foi. Je vois des temples en construction. Nous sommes des mini-temples, si vous voulez, des petits temples. Je vous pose la question, Dieu vous a-t-il convaincu personnellement qu'il travaille avec vous pour faire de vous la plus belle habitation de Dieu en esprit? Sommes-nous conscients que chacun de nous, tout en étant une pierre vivante du grand édifice, nous sommes déjà un mini-temple? Oui, en plus, un temple qui peut se déplacer. De ce côté-là, nous ressemblons plus à ce tabernacle dans le désert qu'à ce temple, on pourrait dire, non déplaçable de Salomon. Vous savez, au Québec, on a un groupe qui a chanté qui s'appelait le groupe Harmonium. Et l'auteur-compositeur québécois a fait une chanson qui s'intitule Pour un instant. J'aimerais vous citer quelques paroles de cette chanson parce qu'il y a un principe qui vient confirmer l'importance que nous avons devant Dieu. Il dit, pour un instant, j'ai retourné mon miroir, ça m'a permis enfin de mieux me voir. Le but de la chanson, c'est d'expliquer que en tant que dédié au spectacle, il était, en tant que chanteur, il était tourné vers l'extérieur, vers faire justement des spectacles, plaire aux gens, essayer de donner le meilleur de lui-même, ça va. Mais il dit, pour un instant, j'ai retourné mon miroir, j'ai pris le temps d'analyser où j'étais rendu. Plus loin, il dit, pour un instant, j'ai respiré très fort. Ça m'a permis de visiter mon corps. Une belle analogie ici. Vous savez à quoi compare la Bible, le Saint-Esprit. Le langage biblique nous dit que l'Esprit de Dieu est le souffle de Dieu, si vous voulez, la respiration de Dieu en nous. C'est-à-dire que comme quand nous inspirons et que nous pensons à Dieu, nous sommes en contact avec Dieu. Alors lui, physiquement, il dit, j'ai respiré très fort, ça m'a permis de visiter mon corps. Et qu'est-ce qu'il a découvert quand il s'est concentré sur sa vie intérieure? Il a découvert ceci, des inconnus Vive en roi chez moi, moi qui avais accepté leur loi. Il découvre au fond qu'il n'est pas maître chez lui. Il se rend compte qu'il y a des influences à l'intérieur de lui qui ont fait leur loi. Au fond, on dit qu'il ne contrôle pas tout à fait. Et finalement, il arrive à la conclusion, les motivations au fond qui l'ont amené peut-être à s'extérioriser par la chanson et tout ça, à rechercher la gloire peut-être, il dit, j'ai perdu mon temps à gagner du temps, au lieu de me concentrer peut-être sur le développement de ce qui était plus important et de voir qu'est-ce qui se passait dans ma vie au niveau de ces fameux étrangers, de ces fameuses présences, on pourrait dire, que ce soit l'orgueil, que ce soit le ressentiment, que ce soit le sentiment d'infériorité qui doit être compensé par un sentiment de supériorité. Alors, est-ce que, frères et sœurs, en tant que mini-temple, parce qu'il faut aller jusqu'à ce niveau-là, on est dans une grande œuvre et pourtant il y a quelque chose de très précis, très personnel qu'on doit se poser. Est-ce que dans nos corps, dans nos vies, vivent encore des inconnus chez nous, faisant obstruction à l'œuvre d'édification, de construction de l'édifice de Dieu? Si on rappelle qu'avant Salomon, il y avait ce petit tabernacle, je dis petit par rapport au grand temple, et ce tabernacle et surtout la partie la plus précieuse, le coffre de l'Alliance, qui représentait bien sûr la présence de Dieu avec les 10 commandements, hein, qui est inclus dans ce coffre. Il y a eu une catastrophe qui s'est produite un jour dans l'histoire de ce petit peuple en développement. L'arche a été capturée, le coffre de l'Alliance a été capturé par un peuple hostile, les Philistins. Et il a été amené même dans le temple du dieu Dagon, un temple donc païen. Il y a beaucoup dans cette histoire qu'on pourrait comparer avec le plan de Dieu concernant le fait que Dieu, un jour, en la personne de Jésus-Christ, a été capturé. Non pas par des ennemis, mais par son propre peuple, un peu plus comme Samson que pour l'arche. Mais il a bien sûr été livré quand même aux Romains. Et il a subi cette captivité. Et non seulement une captivité, mais même la destruction de son corps. Comme il dit, détruisez ce temple, mais après 3 jours, je le relèverai. Alors, cette catastrophe, si on s'y reporte, a marqué quand même le peuple de Dieu. Il les a laissés dans un goût, on pourrait dire, amer et on pourrait dire inquiet. C'est au point qu'un des chants qui a été mis en place par David, un compositeur inspiré de Dieu, qui s'appelle Asaph, la moitié des psaumes environ sont estimés avoir été composés par David. Mais l'autre moitié, un des grands compositeurs, c'est Asaph. Reportons-nous au psaume 79, verset 1, qui va nous enseigner cette leçon que nous, si on se met à l'échelle de notre présence avec Dieu et Dieu présent avec nous dans notre vie chrétienne, parfois, il y a des étrangers qu'on ne veut pas avoir, mais qui rentre chez nous. Psaume 79, 1. Et bien sûr, l'image de ces Philistins qui, dans un sens, se sont emparés du coffre de l'Alliance. Et il y en a des historiens qui pensent qu'ils ont même été jusqu'à détruire, ou du moins ravager, la ville où le petit tabernacle, hein, était aussi placé, qui n'avait pas été amené sur le champ de bataille, mais peu loin de là. Psaume d'Asaph, il commence avec cette expression, « Ô Dieu, les nations ont envahi ton héritage, elles ont profané ton saint temple. Alors, ils pouvaient bien sûr, sous l'inspiration de Dieu, projeter cette réalité que aussi les nations un jour allaient profaner le merveilleux temple de Salomon. Et ça s'est produit, et Jérémie, le prophète, lui-même l'a vécu. Il était là lorsque le temple a été profané, lorsque les troupes babyloniennes sont rentrées dans Jérusalem, et non seulement là, mais dans le temple, ils ont tout pris. Ils ont dépouillé le grand temple de Salomon de tous ses vaisseaux. Ils ont certainement pris l'or qu'il y avait et toutes les richesses. Et nous voyons Jérémie 51 maintenant, Jérémie 51, verset 51. C'est assez intéressant que ça coïncide, que c'est 51-51. Et voici comment Jérémie exprime la partie difficile d'être membre du peuple de Dieu. Il dit, nous étions confus. Quand nous entendions l'insulte, la honte couvrait nos visages, quand des étrangers sont venus dans le sanctuaire de la maison de l'Éternel. Ils ont été là, dans cet endroit saint, et nous étions impuissants à le faire, à faire quoi que ce soit. Vous savez, si notre corps est le temple de Dieu, on pourrait dire que physiquement, parfois, on est atteint d'une maladie, hein, quelconque. Certains d'entre vous, vous avez vécu des moments difficiles dans votre temple, dans votre corps. Et je me souviens de mon côté du moment où j'étais encore jeune dans le ministère. C'est l'année 87, si ma mémoire est bonne. Et j'ai été attaqué par une double pneumonie, bactérienne. C'est un peu différent de viral. Et d'après ce que le docteur m'a dit plus tard, une fois que j'ai survécu à ça, il a dit, t'aurais pu y passer, c'est sûr. Mais ça m'a rendu conscient, à un moment donné, que l'ennemi a été rendu dans un endroit saint, précieux, qu'on appelle les poumons. Vous savez, lorsque l'ennemi est en train d'envahir des endroits aussi intérieur que les poumons, et qu'on puisse en mourir par une forme de noyade, si vous voulez, ben ça fait réfléchir sur le fait que, en tant que temple de Dieu, nous sommes vulnérables. Nous avons besoin de la pensée de Dieu. Et bien sûr, nous sommes vulnérables non seulement aux ennemis physiques, ce qui est la moindre des choses. Quand je dis moindre, c'est-à-dire comparé aux ennemis spirituels. Ennemis spirituels, dit Paul, dans les lieux célestes, les puissances maléfiques, les pensées destructrices, et c'est là aussi qu'on fait le pont avec la sœur Monette. Et vous savez, dès le début, nous voyons que dans la construction de l'être humain, il y a la compétition qui est pour la destruction de l'être humain. Regardons rapidement, si vous voulez, un passage dans Genèse 3, passage très bien connu, mais qui doit nous rappeler, frères et sœurs, non pas pour nous faire peur, mais juste pour nous rendre un peu plus sobres, que quelqu'un construit notre temple. Quelqu'un qui nous a choisis veut nous bâtir individuellement et collectivement, mais il y a quelqu'un d'autre qui envoie ses projets, qui nous dit qu'est-ce qu'il faut faire pour bâtir ou comment il faut agir. Et ce n'est pas selon les plans. Ce n'est pas selon le maître constructeur. Ce n'est pas selon la sagesse. Et regardez Genèse 3, verset 9. Là, nous sommes après un moment très grave, très difficile dans le plan de Dieu. Adam a été instruit par Dieu. Il le connaissait bien. Il a vécu des expériences avec lui. Entre autres, il a eu le plaisir, la joie de participer à découvrir tout le monde de la zoologie, hein, tous les animaux. Il a donné des noms. Il était donc le premier grand biologiste, hein, surtout zoologiste, à nommer tous les animaux. On ne sait pas combien de temps Adam passe avec Dieu, mais Dieu certainement l'a instruit sur beaucoup de choses. Et mais là, il y a quelqu'un d'autre, comme vous savez, qui a proposé une autre façon de faire. Il a mis un doute sur les capacités du grand architecte. L'Éternel Dieu appela l'homme, après qu'il avait mangé du fruit défendu, et lui dit, où es-tu? Dans le sens, comment ça va, Adam? Comment vis-tu ce que tu vis? Il répondit, ça, c'est la réaction d'Adam après sa faute. J'ai entendu ta voix dans le jardin, comme d'habitude, au fond. Et mais il y a un élément additionnel, là. Et j'ai eu peur. J'ai eu peur. Ah ouais? Parce que je suis nu. Ben, il était nu tout le temps avant. Et je me suis caché. Les gens pensent que Dieu se cache d'eux. Non, c'est eux qui se cachent de Dieu. Et l'Éternel Dieu dit, voyez-vous, qui t'a appris que tu es nu? C'est pas moi. Il y a quelqu'un d'autre qui t'a enseigné. Il y a quelqu'un d'autre qui t'a dit de donner de l'information pour laquelle tu n'étais peut-être pas prête encore. Un peu comme certains informateurs, certains, ce ne sont même pas des enseignants parce que les enseignants n'ont même pas le droit d'être dans les classes quand ça se fait. Certains informateurs qui vont enseigner à des petits-enfants qu'ils sont nus et qu'est-ce qu'ils doivent faire avec leur nudité. Et qu'est-ce que, dans un certain sens, tout est permis? Qui? Il y a d'autres influences, des étrangers. Voyez-vous? Alors, ce principe-là, on le comprend, nous, dans l'Église de Dieu, dans le peuple de Dieu. Une honte, une culpabilité est venue sur Adam, qui n'avait pas à être là. Ça ne venait pas de Dieu. Adam a ses fautes dont il est coupable, mais ici, il portait une honte qu'il ne devait pas porter. Ça ne lui appartenait pas. Ça lui avait été transféré. D'accord? Et on voit que ce sont des éléments comme ça qui sont révélés de plus en plus à l'humanité. On voit par exemple que dans la génération des enfants d'Adam, des pulsions, des éléments négatifs et positifs. Du côté d'Abel, par exemple, il se sent tout à fait en paix avec son Dieu. Il réussit à percevoir ce que Dieu veut qu'il fasse pour être en contact avec lui, entre autres. Faire une offrande du meilleur de son troupeau. Le mot, c'est prémisse, du premier-né de son troupeau. Il comprend ça pour une raison ou pour une autre. Ça fait partie des instructions de Dieu écrites qu'on voit plus tard dans le livre de l'Exode, entre autres, les premiers-nés, l'importance des premiers-nés. Il comprend, il se plie à ce que Dieu veut. Il veut vraiment donner de son meilleur à Dieu. Et Dieu est content de cette compréhension et de cet échange. Son frère, lui, ne capte pas la pensée de Dieu. Oui, il va un peu imiter son frère. Lui aussi, il va faire une offrande, mais on ne voit pas du tout qu'il va chercher les premiers fruits de sa production. Lui, cultivateur, c'est normal qu'il donne les premiers fruits, mais de ses légumes. Est-ce qu'il se compare à son frère négativement? On ne sait pas. Mais une chose certaine, c'est que quelque chose qui est rentré dans cet homme qui s'appelait Caïn, et Dieu dit, le péché couche à ta porte comme un ennemi, un animal qui veut te sauter dessus. C'est dans le texte original hébreu. Alors, on se rend compte donc que dans ce processus de construction de l'humanité, il y a des forces destructrices qui viennent et qui essaient de débâtir ou même de démolir les êtres humains dans leur cheminement vers la maturité. C'est pas étonnant que Paul va plus tard expliquer que dans le temple même de Dieu, le temple collectif de Dieu, il y a des étrangers qui vont s'introduire. Regardez avec moi Acte 20. Acte 20. Je sais, verset 29. Pourquoi? Parce que Paul y connaît les principes de la construction de Dieu. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Une autre citation pardon, oui, c'est Paul qui parle ici, rapporté par Luc. Une autre ici de Paul, cette fois-ci donnée à Timothée. C'est dans la deuxième Timothée, deuxième lettre à Timothée, 3:6. Je lis pour vous. Il en est parmi eux, en parlant des gens dans l'Église, qui s'introduisent dans les maisons, qui captive des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, autrement dit, un peu comme Caïn, qui déjà avait de la jalousie ou de l'envie ou du ressentiment et finalement de l'aigreur, de la haine au point qu'il a tué, ben, il y a des forces qui vont essayer d'attiser certaines de nos difficultés. Hein? Il ne faut pas s'étonner, il faut juste dire, ah, on est rendu là. Ah, dans le plan de Dieu, Dieu me confie de m'occuper de ça avec lui. Et parfois, ça peut être même des choses légitimes, mais qui sont placées dans un mauvais ordre de priorité dans nos vies qui viennent nous ralentir dans la construction. Il suffit de voir l'analogie qui est basé sur un fait réel d'un peuple qui, après la destruction du temple de Salomon par les Babyloniens dont nous avons parlé tout à l'heure, un groupe d'entre eux ont été envoyés par le chef du nouvel empire qui s'appelait Cyrus, l'empire perse, pour rebâtir. Ils sont environ 50 000. Pas autant que du temps de Salomon, mais ils sont 50 000. Mais voilà que les obstacles, l'opposition, la pauvreté, toutes sortes de difficultés, le traumatisme de revenir chez soi puis de voir que tout a été démoli, d'avoir des voisins qu'on ne connaissait pas, un peuple qui a été exporté là et avec lequel ils doivent comme essayer de trouver à vivre tous ces traumatismes, toutes ces difficultés, fait qu'à un moment donné, Dieu leur parle et dit, hey, ça marche pas, hein? C'est dans âgé. Nous qui sommes âgés, OK, nous devons nous rappeler que nous avons une mission à accomplir. Et ce n'est pas parce que nous avons des obstacles, ce n'est pas parce que le temps passe que nous avons raison de négliger la mission de Dieu. Bâtir la maison. C'est tout le livre de Agé. Je vais juste vous donner un passage avant d'arriver à la conclusion, si vous permettez, mes frères. Agé, quand il dit, est-ce le temps pour vous d'habiter dans vos demeures? La réponse est, il y a quoi de mal à habiter dans nos demeures? Mais ça dépend. C'est que c'est votre but premier. Vous vous occupez de vos vies, il faut s'en occuper, Mais vous avez oublié la raison pour laquelle vous vivez, pour laquelle vous êtes rendu là. N'oubliez pas, vous êtes parti pour rebâtir ma maison. Pour rebâtir ma maison. Alors, c'est l'importance, hein, de se souvenir que nous sommes en train de construire le temple de Dieu. Vous savez, ça se fait dans les petites choses et dans les grandes choses. Sharon et Harold vous remercient pour vos cartes, pour vos prières, lorsque nous avons été les visiter. Sharon nous confiait, Chantal et moi, que alors Carole est en train de faire de la physio, c'était pas prévu, mais là-bas, hein, ils sautent sur l'occasion selon ce qu'ils peuvent. Et voilà qu'elle nous explique que pour la première fois, elle a compris que ce qui l'a touché, c'est pas seulement de savoir en général que les gens prient pour eux, mais qu'on leur dise que spécifiquement, voici moi, je prie pour toi. Le fait de le dire, ça construit l'autre. C'est pour l'autre. On lui laisse savoir que nous sommes impliqués dans la construction de sa vie. Et elle a dit, ça fait toute une différence. C'est pour moi quelque chose qui m'a montré qu'on est édifié dans l'amour. J'aimerais reprendre en conclusion la citation du commentaire de l'Église de Dieu sur la construction du temple. Le temple était une création magnifique, dont chaque élément était orné d'or, d'argent, de bronze, de pierres précieuses, de marbre, de gravures et de boiseries. Se trouver dans ces cours devait être une expérience à couper le souffle. Et il y a eu ce moment, frères et sœurs, où oui, il y a eu comme un accès au temple par Salomon, qui a transporté tous les biens précieux que David, entre autres, avait accumulés, son père, pour mettre dans les salles, on pourrait dire, comme trésor. C'était consacré à Dieu pour utilité, pour futurs travaux, pour futures innovations. Alors, il y a eu cette entrée, on pourrait dire non officielle. Mais le jour est venu, frères et sœurs, où ça a été officiel. Et là, tout le peuple a été convoqué. Il y avait des milliers de personnes. Et vous savez quelle était l'occasion? C'était à l'occasion de la fête des tabernacles. Et cette fête-là a été utilisée dans le sens d'une façon très positive, parce que les gens, de toute façon, venaient à Jérusalem. Mais cette fois-ci, il y avait quelque chose de plus. Il y avait le temple. Alors, on a organisé de grandes festivités. Salomon, bien sûr, qui était déjà béni par Dieu, a fourni des centaines, des milliers d'animaux pour faire une fête incroyable qui allait aussi durer pendant la fête des tabernacles. Autrement dit, si on comprend bien le texte, ils sont arrivés environ 6 jours avant la fête des tabernacles. Il y a eu cette dédicace-là et elle a été suivie de la fête des tabernacles pour une période de 14 jours. Mais vous savez ce qui a été le moment le plus solennel? C'est lorsque le coffre d'alliance a monté dans les marches et a entré dans le lieu saint, le grand sanctuaire. Ce n'était plus le petit sanctuaire du tabernacle, c'était le grand sanctuaire du temple. Et ensuite est rentré dans le saint des saints. Bien sûr, c'était les sacrificateurs qui le rentraient. Et ils ont déposé cette arche-là, non pas cette fois juste là, mais Salomon avait fait bâtir deux grands chérubins. Et cette arche-là était sous deux grands chérubins en bronze, couverts d'or. C'est intéressant que à ce moment-là, le groupe de Asaph s'est mis avec ses centaines de chantres et d'instrumentalistes, de musiciens, se sont mis à chanter à ce moment solennel, et là, il est arrivé un phénomène extraordinaire. La présence de Dieu sous forme de nuée s'est étendue sur eux tous. Ils étaient tellement saisis par cette présence glorieuse qu'ils ne pouvaient plus rien faire. Quoiqu'on ne dit pas que les chantres ne pouvaient plus chanter, mais les sacrificateurs, eux, ne pouvaient plus faire rien. Et c'était un moment grandiose. Vous savez, frères et sœurs, en conclusion, déjà Dieu a fait sa demeure chez nous, en y habitant par son Saint-Esprit. Un jour, bientôt, ce sera Jésus lui-même qui viendra habiter avec son épouse glorieuse, composée de chacun des enfants de Dieu, qui a été glorifié, bien sûr, par la puissance de Dieu. Et ce moment-là, ce sera le moment de la grande dédicace. En attendant, terminons notre tâche dans les projets de construction de notre roi. Bonne fin de sabbat. Ça fait plaisir de passer quelques minutes avec vous à la fin. Oui, le temps va nous le permettre avant que l'assemblée ici se puisse se faire. Nous aurons ce plaisir d'avoir l'assemblée après vous, inspirée par vous, inspirée par Dieu.